Willett avoue sans honte que pendant un moment, la légende du vieux Kerven le retint de descendre dans le puits malodorant. Il ne pouvait s'empêcher de songer à ce que Luc Fenner avait écrit sur cette dernière nuit monstrueuse. Mais le courage l'emporta, et il pénétra dans le trou muni de sa grande valise destinée à recueillir tous les documents importants qu'il trouverait. Lentement, étant donné son âge, il descendit le long de l'échelle et atteignit les pierres gluantes de l'escalier. La maçonnerie, éclairée par la lampe, était très ancienne, et les murs suintants étaient recouverts d'une mousse séculaire. L'escalier descendait de plus en plus bas, non pas en spirale, mais selon trois virages abrupts. Il était si étroit que deux hommes auraient eu peine à se croiser. Willett avait compté 30 marches lorsqu'il entendit un bruit lointain. Après cela, il arrêta de compter. C'était un cri impie, un son très bas, insidieux outrage à la nature, comme il ne devrait pas en exister. Parler de morne gémissement, de pleurs de jugement dernier, de hurlements désespérés, de cœurs tourmentés, de chair sans âme lacérée par le fouet, ne permettrait pas de décrire la quintessence de son horreur ni ses harmoniques écœurants jusqu'à l'âme. Était-ce cela que Ward tentait de percevoir quand on l'emmena le dernier jour? C'était la chose la plus épouvantable que Willett eût jamais entendue, et ce son, venant de nulle part, se poursuivait encore lorsqu'il atteignit le bas de l'escalier et balada sa torche sur les murs d'un vaste corridor surmonté d'un dôme cyclopéen et pénétré d'innombrables couloirs voûtés et obscurs. Il faisait au moins 5 mètres de haut dans son milieu et 4 mètres de large. On ne pouvait se faire une idée de la longueur tant il semblait s'étendre à l'infini dans l'obscurité. Le sol était pavé de grandes dalles de pierre découpées. Les murs et le plafond étaient maçonnés. Quelques-uns des couloirs latéraux étaient fermés d'une porte de style colonial, d'autres non. Malgré la terreur animale que lui inspiraient l'odeur et les cris, Willett commença à examiner ces couloirs voûtés un à un. Ils se terminaient tous par une pièce voûtée également, de taille moyenne et d'usage mystérieux. La plupart était pourvu d'une cheminée dont le circuit supérieur aurait pu faire l'objet d'une passionnante étude architecturale. Partout, on voyait ou on devinait des instruments enfouis sous des toiles d'araignée et de la poussière vieille de 2 siècles. Des instruments tels que le vieux médecin n'en avait jamais vu et n'en verrait plus jamais, qui pour la majorité avaient été dispersés sans ménagement, peut-être par les raideurs de 1762. De nombreuses pièces n'avaient plus été visitées depuis l'époque où Kerven y conduisait ses expériences. Finalement, Willett en découvrit une d'aménagement récent, avec des réchauds à huile, des étagères, des tables, des chaises et un bureau couvert de documents d'époques diverses. On avait disposé en différents endroits des chandelles et des lampes à pétrole, ainsi que des allumettes, avec lesquelles il alluma les lampes laissées là, prêtes à l'emploi. À leur lumière, il apparut que cette pièce n'était autre que la bibliothèque secrète de Charles. Le médecin reconnut plusieurs ouvrages qu'il avait vus à Prospect Street, d'où provenait également une bonne partie du mobilier. Ici et là, il reconnut un objet, et cet environnement familier lui en fit presque oublier la puanteur et les cris, qui étaient pourtant plus forts qu'au bas de l'escalier. Comme prévu, sa première besogne consista à s'emparer de tous les papiers, particulièrement ceux découverts par Charles dans la niche dissimulée par le portrait de Kerven à Olney Court. Mais il se rendit bien vite compte de l'ampleur du travail d'analyse qui l'attendait, car tous ses dossiers étaient remplis de papiers manuscrits couverts d'écritures curieuses et de dessins bizarres. Il lui faudrait des mois, sans doute des années, pour tout déchiffrer et tout classer. Il découvrit entre autres des lettres affranchies à Prague et à Rakus, manifestement de la main de Horn et Hutchinson. Il mit le tout dans sa valise. Enfin, il aperçut un joli secrétaire en acajou qui ornait naguère la demeure d'Eward, dans lequel il trouva une liasse de papier rédigée par Kerven que Charles lui avait laissé entrevoir à contre-cœur quelques années auparavant. Le jeune homme les avait apparemment laissés dans l'état où il les avait trouvés à Olney Court, car à l'exception des lettres adressées à Horn et Hutchinson, du message codé et de son chiffre, Tous les titres des documents correspondaient à ceux énoncés par les ouvriers dans leurs témoignages. Willett rangea le tout dans sa valise et poursuivit ses recherches. Sa priorité était évidemment Charles, et il commença par fouiller parmi les documents les plus récents. Une chose étrange le frappa immédiatement. Il y avait très peu de documents de la main du jeune Ward, en tout cas aucun qui date de moins de 2 mois. En revanche, il y avait une quantité impressionnante de notes historiques et philosophiques, de formules et de commentaires, d'une écriture torturée, semblable à celle de Curwen, quoiqu'indéniablement très récente. Sans doute Charles s'était-il amusé à imiter l'écriture du vieux sorcier. En tout cas, il y était parvenu à la perfection. Par contre, il n'y avait aucun document manuscrit d'une autre main qui aurait pu par exemple être celle du docteur Allen. S'il était vraiment devenu le maître de la bande, il avait dû obliger le jeune Ward à lui servir de scribe. Une formule mystique, ou plus précisément une paire de formules, réapparaissait si souvent dans ces derniers documents que Willett en vint à la connaître par cœur. Elle était disposée sur 2 colonnes. Celle de gauche était surmontée par le symbole très ancien appelé « tête de dragon » qui indique le nœud ascendant dans les almanachs. Et celle de droite, de la queue de dragon ou nœud descendant. Presque inconsciemment, Willett se rendit compte que la 2e colonne n'était rien d'autre que la première à l'envers, à l'exception des monosyllabes de la fin et de l'étrange nom Yog-Sothoth, qu'il avait rencontré à plusieurs occasions sous différentes orthographes. Le tout était quelque chose du genre « tête de dragon, Yan-Genga, Yog-Sothoth, Hil-Geb, Fai-Trog, Waah !» Et l'autre, Oktrodot-Taif, Geble, Yog-Sothoth, Nganga, Yai-Zro. Tes formules étaient tellement envoûtantes que le médecin se surprit à les répéter à voix basse. Finalement, il jugea qu'il avait emporté bien assez de documents qu'il faudrait analyser, et il arrêta d'en examiner de nouveau, laissant ce soin au psychiatre qu'il ne manquerait pas d'amener ultérieurement pour une perquisition plus systématique. Mais il lui fallait encore trouver le laboratoire. Aussi, abandonnant sa valise dans la pièce éclairée, il repartit dans le vaste corridor obscur et puant, dont les voûtes réverbéraient toujours le hideux gémissement. Les pièces suivantes étaient tantôt vides, tantôt remplies de caisses délabrées et de sinistres cercueils de plomb. Willett fut impressionné par l'immensité de l'entreprise de Joseph Curwen. Il eut une pensée pour les esclaves et les marins disparus, pour les tombes violées un peu partout dans le monde et pour les participants à l'attaque de la ferme de Potuxet. Puis il décida qu'il valait mieux ne plus penser du tout. À ce moment, apparut un grand escalier de pierre qui montait vers la droite. Probablement, pensa-t-il, vers une des annexes de la ferme, peut-être le fameux bâtiment de pierre aux meurtrières inaccessibles, à supposer que l'escalier ait jadis mené à la ferme. Soudain, devant lui, les murs semblèrent disparaître, cependant que le gémissement et l'odeur devenaient de plus en plus forts. Willett comprit qu'il était arrivé dans une salle si vaste que la lumière de sa torche ne parvenait même pas à la traverser complètement. En avançant, il rencontra d'énormes piliers qui soutenaient les voûtes du plafond. Bientôt, il atteignit un cercle de piliers qui rappelait irrésistiblement les monolithes de Stonehenge autour d'un grand autel sculpté, élevé au centre sur une base de 3 marches. Il s'en approcha pour étudier les sculptures à la lumière de sa torche. Quand il comprit ce qu'elles représentaient, il fut pris d'un frisson et s'écarta, sans examiner davantage les taches noires à la surface qui dégoulinaient sur les côtés. Cependant, il finit par trouver et suivre le mur opposé qui formait un gigantesque cercle, percé par quelques portes et par une myriade de petites cellules aux barreaux métalliques pourvues de bracelets pour les mains et les chevilles, attachés à des chaînes elles-mêmes fixées dans le mur. Ces cellules étaient vides. L'odeur infâme persistait, de même que le gémissement plus insistant que jamais, parfois entrecoupé de bruits sourds et humides.